Ici le Conseil de l'Europe. This is the Council of Europe calling.
La parole est à Monsieur le Président
of the European Parliament.
Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose.
You just heard the President of the European Assembly. A Happy New Year for Europe.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur les ondes d'Etroit 8 en ce dimanche 9 mai pour une journée consacrée, date d'anniversaire oblige, à l'Europe. En effet, voilà 60 ans maintenant, puisque c'était le 9 mai 1950 que Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation de l'Europe indispensable au maintien des relations pacifiques. En cette occasion, une émission, finalité d'un projet démarré maintenant il y a quelques mois, puisque c'était en novembre 2009, projet commencé par des journalistes de Radio Grenouille, et dont l'émission aujourd'hui est la finalité du second volet, avec le partenariat de la Direction de la Communication du Parlement européen et de l'Université de Provence. Et nous allons parler donc aujourd'hui de l'Union européenne, de l'Union européenne autour duquel les étudiants de Radiolab, qui participent donc au projet Radiolab dans Radio Grenouille, sont partis au Parlement européen, sont partis à Bruxelles pour en saisir l'ambiance, les coulisses, pour comprendre ce qui habituellement n'est pas donné à voir au public, pour mieux comprendre le fonctionnement et en saisir une problématique autour des codes de ce Parlement. Aujourd'hui, l'Union européenne est une véritable entité politique avec une représentation complète, un drapeau, un hymne, une monnaie unique. Mais la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si ces codes sont nécessaires pour cohabiter, si ces codes participent à nos représentations de l'Europe et du Parlement européen, et comment les codes fabriquent des territoires partagés et du vivre ensemble. Pour ce faire, autour de notre table, nous avons donc les participants à ce projet, les étudiants et radiolaborantins. Alors, je vous demande d'accueillir Claire. Bonjour.
Bonjour.
Lucie.
Salut.
Catherine.
Bonjour.
Aurélien.
Bonjour.
Et deux invités de choix, puisque nous avons avec nous Eric Pringles, graphiste.
Bonjour.
Qui a travaillé pour le Parlement européen, pour la communication du Parlement européen. Et Xavier Letton, artiste.
Bonjour.
Dont le travail tourne autour de la communication et des signaux, et nous vous avons invité pour agir, pour écouter les travaux qui ont été faits et pour donner votre point de vue sur la question. Alors tout de suite, nous allons écouter un premier travail qui a été fait par Aurélien. Je te laisse présenter ton travail. Comment il s'appelle-t-il sur un...
On va écouter quelque chose qui s'appelle Sur un air.
Ouais.
Alors c'est un ourapo.
Ouais.
Alors je peux faire un rapide descriptif de ce qu'est un ourapo.
Oui, explique-nous ce que c'est qu'un ourapo.
Alors un ourapo, c'est un exercice radiophonique à partir de contraintes, c'est-à-dire qu'on s'impose une contrainte pour réaliser une création sonore. Alors cette contrainte, elle peut être apposée à l'enregistrement, au montage ou à la diffusion.
D'accord, quelle était la contrainte là?
Là, en fait, la contrainte s'est apposée au montage, c'est-à-dire que j'ai utilisé la boucle.
Ouais.
Donc, ce qu'on va entendre, c'est ça se rapproche d'un canon de boucle. Et je vous ai proposé.
On va écouter ça et on réagira tout à l'heure.
Vi arbetar i ett mycket stort antal språk är ett absolut världsrekord. I FN där det finns upp till 7 beroende på FN-organen.
Engelska, franska, arabiska, ryska, hindi, mandarin och så vidare. Vi behöver räkna in i riket eftersom engelska är det språk som eran. Alors on travaille dans un très grand niveau de langue de l'anglaise, c'est pour faire des
gestes. Maltesisca gaelica.
Et voilà, vous venez d'écouter Sur un air, un travail d'Aurélien. Alors Aurélien, ce travail, c'est au rapport. Dis-nous un peu plus, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ça et qu'est-ce que tu avais derrière la tête quand tu as fait ça?
Alors en fait, il faut savoir que c'est ce qui est raconté en fait par les différentes voix qui sont présentes dans cet ourapo, ouais. c'est tiré d'un extrait de discours d'un fonctionnaire européen qui raconte un peu la difficulté de travailler dans les diverses langues utilisées au Parlement européen.
D'accord.
Donc y en a 23, mais bon, là on a pu entendre de l'italien, du suédois, de l'anglais et du français. Et donc, c'était un peu aussi. Le but de cette manipulation, c'était aussi montrer un peu que, une déstructuration du code linguistique.
Ouais.
Et à la fois sur la forme, avec cette idée de boucle, et à la fois sur le fond, parce que ce qui est raconté, enfin, ce qui est dit par les voix, ça fait appel à cette confusion de langues, en fait.
D'accord. Donc, c'est un travail qui pose la question du langage.
Oui.
Parce qu'au sein du Parlement européen, bien sûr, ils parlent plusieurs langues. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que le code, est-ce que la langue, là, simplifie-t-elle les rapports humains, c'est ça?
Oui, entre autres.
Voilà, ou est-ce que peut-être le fait de cohabiter dans un même espace, plusieurs langues, plusieurs cultures qui cohabitent dans un même espace, est-ce que ça les rend, du coup, est-ce qu'il faut une langue commune? Est-ce que du coup toutes ces cultures entre elles peuvent arriver à se comprendre? Et est-ce que le fait qu'il y ait un code commun, mais qu'il y ait plusieurs cultures, est-ce que du coup ce code est moins efficace, moins clair? Je propose d'écouter peut-être un deuxième travail sur le langage. On va réécouter le travail sur la prose du fonctionnaire. C'est aussi un travail qui parle du langage, de la manipulation et de la parole, et comment on peut, avec des mots, faire dire autre chose ou avoir des mots un peu, comment dire, valise. Je vous laisse écouter et on revient après.
Je suis au titre de la Direction générale de l'information du Parlement européen. Je suis heureux de vous rencontrer ce matin. Vous qui venez du sud de la France et qui avez amené au pays du brouillard où les canals se perdent, comme disait Jacques Brel, dans la Flandre profonde, vous avez amené le soleil du sud, c'est une excellente chose. Alors vous êtes ici au Parlement européen. Je suis allé dans le monde avec le Parlement européen dans 70 ou 80 pays environ. En général, ce n'était pas pour aller à la plage. Ça m'est arrivé d'aller à l'île Maurice sans aller à la plage d'ailleurs. Pourquoi c'est difficile à comprendre ? Il faut revoir toute l'histoire de France. Il faut remonter à Louis XI, Louis XIV, sans oublier Robespierre et Bonaparte. Alors, il y a un élément de difficulté que je dois reconnaître absolument. Du Brie, par exemple, c'est fait dans la Seine-et-Marne. Si vous le vendez un mot à Provins, c'est-à-dire à 10 ou à 20 km de l'endroit où il est fabriqué, comme le lait n'a pas été bouilli et pasteurisé, ça va. Mais c'est un peu plus délicat à conserver que le fromage au lait pasteurisé. C'est simple, non, ça? C'est compréhensible. je vais ajouter quand même, hein. Là je vais être un peu provocateur. Moi j'ai dans mon grenier la collection des poulets de Bresse, etc. Si vous coupez les pattes des poulets de Bresse pour des raisons d'hygiène, le poulet de Bresse ressemble à un chicken commence dans les dogmas, qu'on appelle les McDo, c'est ça, ouais. Alors on comprend ou on comprend pas, mais je suis obligé d'expliquer ça. Il a les pattes bleues. Si vous lui coupez les pattes, ça ressemble à un poulet quelconque. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Sans donner quand même, parce que là, de détails, c'est très complexe. Parce que c'est plus délicat que le fromage au lait pasteurisé. Voilà.
Voilà, c'était la prose du fonctionnaire. Vous avez pu l'entendre, c'est assez drôle. Aurélien, c'est toi qui as aussi créé ce petit morceau sonore. Alors, encore une fois, explique-nous ton travail, comment tu as travaillé et quelle était l'idée.
Oh bah là, c'est un peu plus le détournement, quoi. C'est ce qui se fait un peu. C'est un exercice un peu plus rigolo, on va dire. C'est partir d'un discours, quel qu'il soit, et s'amuser, le triturer, en faire un peu ce qu'on veut. Là, c'est de l'amusement, on va dire.
D'accord. Et mais alors, ce discours, tu l'as pris sur un ensemble de discours ou sur un discours en particulier? Est-ce que...
Ouais. Alors en fait, à la base, oui, bah c'est toujours ce même monsieur qui était censé nous faire la visite du Parlement européen à Bruxelles. Et au final, on est resté confiné pendant un bon moment dans la même pièce et à écouter ce monsieur. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que. Une heure et demie à nous parler de ce qu'était le Parlement européen sans pouvoir voir ce qu'il est vraiment, ça méritait un petit détournement.
D'accord. Alors, pour réagir sur ça, je me tourne donc vers mes deux invités, donc Eric Pringles, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes graphiste de profession, oui. Vous êtes né à Bruxelles.
Oui.
Vous êtes photographe aussi également.
Oui.
Bon, en tout cas, vous en avez fait,
oui.
La photographie. Et votre travail s'attache donc sur les problématiques urbaines en général?
Oui, entre autres, en fait, je suis diplômé d'architecture,
ouais.
Et j'ai toujours gardé un pied dans l'espace urbain.
D'accord. Et vous avez travaillé aussi pour diverses institutions?
Oui, je voudrais corriger ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, il ne s'agit pas du Parlement européen, il s'agit des commissions européennes.
Oui, pardon.
Donc j'ai travaillé en tant que consultant en cours de route,
ouais.
Sur la rénovation du bâtiment Le Berlaymont.
D'accord.
Donc qui a été rénové pour cause d'amiantage élevé,
ouais.
Qui était d'ailleurs très très beau à l'époque, puisqu'il était recouvert d'une nappe blanche, un peu comme on a pu comme Christo a pu habiller les ponts à Paris.
D'accord.
Et donc, j'ai travaillé en tant que consultant sur la signalétique.
D'accord. Et vous travaillez aussi, enfin, vous aimez dans votre travail partir du détournement aussi des codes, des signaux, des institutions ou des choses qui sont de l'ordre de la communication
oui.
Des institutions,
oui,
et les détourner.
Oui.
Est-ce que vous avez des exemples de choses que vous auriez pu faire ou...
Disons que ce que j'aime beaucoup faire, c'est travailler sur un accident,
ouais.
Donc sur une ambiguïté et un décalage dans la perception de l'environnement qui nous entoure, afin de provoquer de manière subtile un changement de regard.
Ouais.
Donc c'est avec un peu ce leitmotiv-là que je suis intervenu avec d'autres personnes, d'abord au sein d'un collectif qui s'appelait Architecture en scène à Bruxelles.
Ouais.
Qui notamment a posé une centaine de points rouges sur des chancres, des façades abandonnées à Bruxelles, dont les points rouges en fait étaient extraits d'une affiche qui était affichée dans les bars et envoyée à la presse. Et
ouais.
Sur cette affiche, il y avait un poème qui disait « Y a-t-il une ville entre les points rouges ?» Ça renvoyait sur un site internet. Et le but était de créer un territoire de débat. Sur la spéculation, sur l'avenir de ces bâtiments, cette spéculation étant en fait en lien direct avec l'avenir de Bruxelles et le rôle qu'elle a pris par la suite.
D'accord. On reviendra sur la question de l'architecture, mais moi je voulais revenir sur la question de la communication. Là, on a pu l'entendre dans le travail d'Aurélien. Est-ce que, comment dire, déjà, quel est votre, enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce travail? et puis que vous avez pu entendre là. Et par rapport à vous, par rapport à votre travail, comment vous considérez la communication officielle, on va dire, d'un établissement ou d'une institution? Et qu'est-ce qui vous intéresse, vous, à détourner là, dans ces fonctionnements?
Ce qui m'intéresse, c'est d'être toujours une longueur en avance par rapport au schéma classique de compréhension, c'est-à-dire c'est peut-être une position d'artiste, je dirais, de réinventer. Donc une fois quelque chose est établi, ce qui est intéressant, c'est plutôt de la remettre en question et de chaque fois faire appel au sens. Donc d'enlever toute la partie rituelle et revenir au symbole et au sens des choses. Donc moi, je voudrais réagir à ce petit détournement que je trouvais très intéressant, puisqu'en fait, d'abord, tout simplement, il peut y avoir un point commun avec le bâtiment des parlements, du Parlement européen à Bruxelles qui s'appelle le Caprice des Dieux, ouais. Donc qui est un fromage pasteurisé. Et je trouve que ça rentre bien en écho avec, justement, c'est en fait la recherche d'une connaissance ou d'une culture ou d'un langage pasteurisé, dont on a enlevé un peu les aspérités ou les choses qui pourraient avoir un peu d'âme, de manière à pouvoir... avoir une norme mais qui circulerait à travers l'Europe. Enfin, j'aimais assez bien.
Vous pensez que la normalisation d'un discours qui semble être inhérente à une institution comme l'est le Parlement européen, enlève quelque part de l'âme à ce discours?
Peut-être provisoirement, le temps d'en recréer de nouvelles. Le temps que ces différents peuples puissent réinventer un nouveau langage. En effet, le passage par une norme peut être intéressant. C'est le plus petit dénominateur commun.
D'accord. Alors, avant d'écouter le prochain son, je voudrais présenter Xavier Letton. Vous êtes artiste.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous vivez à Marseille.
Oui.
Vous avez vécu à Bruxelles aussi?
Oui, pendant 13 ans, oui.
Pendant 13 ans.
Oui.
Et vous, votre travail, vous l'installez dans l'espace public. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre travail brièvement?
Oui. Je travaille principalement sur les espaces publics.
Oui.
Ce qui m'intéresse dans l'espace public, c'est de voir encore ce que cet espace a de public, ce qu'il reste de public dans cet espace. Bon, les travaux que j'ai développés à Bruxelles portaient sur un personnage qui s'appelait Walker, qui est un personnage qui est toujours heureux et qui a eu une vie sur Internet, qui utilisait en fait les modes de communication de la publicité. Si vous voulez une voiture, vous prenez un petit cachet et puis vous êtes très bien, vous avez votre voiture, etc. Donc il y avait une sorte de monde parfait, complètement lissé. Et Walker est aussi, il y avait une représentation graphique, c'est une des représentations du chaînon manquant, c'est-à-dire un petit bonhomme avec une grosse tête, des grosses mains et des très très gros pieds. Mmh. Voilà, donc on l'a mis en situation dans la ville et ensuite on l'a fait exister dans la réalité sous la forme d'un bus, un double deck, un bus double étage qu'on trouve principalement en Angleterre et en Autriche. Et ce bus a voyagé à travers toute la ville, suivant un itinéraire particulier qui reprenait les noms de rues pour en faire des textes.
D'accord.
À l'intérieur de ce bus, c'était un espace ouvert où les gens rentraient, sortaient. Donc, un peu comme les Sound System, le bus se déplaçait à 20-30 km/h et bon, il était possible de rentrer et de sortir. On a fait une intervention avec... donc c'était une thématique sur 4 week-ends couverts par le Kunst International Festival des Arts. Et sur ces 4 week-ends, à un moment donné, on est passé donc, à la gare du Luxembourg, qui est juste en face du Parlement européen, où on a pu intervenir très facilement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas réellement de gardiens, etc. Enfin, surtout les samedis après-midi, puisqu'il n'y a personne, quasiment personne au Luxembourg, à la place du Luxembourg à ce moment-là. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse principalement dans le fait de travailler sur le domaine public, c'est justement essayer de voir à qui appartient en réalité ce domaine public.
D'accord.
Logiquement, il devrait...
Appartient à la communauté.
Voilà.
Ouais.
Et en fin de compte, on se rend compte que ce domaine a été cédé aux taximènes, à la prostitution, enfin un tas de marchands, et qu'en fait, cet espace public est complètement morcellisé.
D'accord.
Morcellé, pardon. Et donc voilà, ça c'est un travail que j'ai développé à Bruxelles, enfin un des travaux que j'ai développé à Bruxelles.
Est-ce que votre travail porte plus sur de l'installation, sur de la mise en scène, mais est-ce que vous travaillez aussi sur la question du langage, de la formulation de, par exemple, de slogans ou des choses comme ça?
Oui, mais je travaille sur la question du langage et de la restitution en fait des parcours. Alors là aussi, les parcours, on les fait dans des espaces publics la plupart du temps. Et ce qui m'intéresse, c'est de sortir, donc, de travailler un parcours. Un parcours, c'est un récit fait de points de repère, avec certains qu'on élude et d'autres qu'on rend présents. Donc on est vraiment dans le fait de raconter une histoire.
D'accord.
Et face à ça, j'essaie de travailler sur les itinéraires avec les mêmes personnes, justement pour leur donner un point beaucoup plus rationnel, beaucoup plus précis. Et entre les deux, on fait de la création de texte la plupart du temps, du dessin comme support au texte, etc. Je travaille avec soit des enfants qui ne savent pas lire ou écrire, donc le dessin est très important, soit des adolescents, soit des adultes qui sont parfois analphabètes en français, mais qui parlent arabe, anglais, etc. Donc voilà, on travaille sur les codes de la ville. L'idée, c'est de voir la ville à hauteur de ses habitants.
Ouais.
Et donc de se réapproprier toute cette partie de la ville qui est construite par quelques-uns pour le plus grand nombre.
D'accord. Bah, en parlant d'appropriation, on va écouter un travail sur la communication qui peut être faite sur le Parlement européen. On va entendre un travail de Lucie. Lucie, bonjour.
On va peut-être l'écouter. Puis
on va peut-être l'écouter, on en revient après. D'accord.
Well, I don't know.
Sorry, I have no idea.
Je sais pas, franchement, je sais pas. Peut-être l'Europe, je sais pas moi ce qui vient à l'esprit.
Well, as far as I know, it's je me mêle jamais dans la politique, alors je sais pas très bien qu'est-ce que je dois dire. Je me mêle jamais dans la politique.
Well.
La définition du Parlement, ça.
Je sais pas.
La définition du Parlement européen.
Bah, c'est un Parlement qui est composé de.
Le Parlement, qu'est-ce que c'est?
La définition du Parlement européen, c'est de l'Assemblée.
Ah, ça, alors, attendez, la définition du Parlement européen.
Une définition? Non, mais vous êtes qui d'abord?
Franchement, l'Europe pour moi, ça va.
Parlement européen.
Eh bien, je crois que c'est là qui prend le principal.
Qui vise à entériner les
décisions européennes.
Je me mêle.
Européenne. Européenne.
Dans la politique.
En fait, je cherche la définition du Parlement européen.
Alors Lucie, est-ce que tu l'as trouvé cette définition du Parlement européen?
Pas encore.
Pas encore.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Voilà, en fait, quand je suis allée questionner des gens sur c'est vraiment une définition en termes de dictionnaire, c'est difficile de répondre. Et même des gens qui travaillent tous les jours dans le Parlement européen. Et quand j'interroge les gens, on brandit un peu des mots comme ça, un peu comme des formules magiques, des mots représentation. Citoyenneté, démocratie participative, et j'ai trouvé que ces formules magiques étaient incantatoires, c'est-à-dire on les utilise et
un peu comme des formules toutes faites finalement.
Ouais, toutes faites, mais le simple fait de les utiliser permet de ne pas parler et ne pas dire des choses. Et je trouve que ces mots gomment des clivages politiques, c'est-à-dire dans le débat public aujourd'hui et même chez tout un chacun qu'on interroge autour d'une rue à Bruxelles, on retrouve ces mots-là qui gomment les différences idéologiques qu'il peut y avoir, les différentes positions. Quoi. On est un peu dans le débat public sur des idées que tout le monde partage, qui ne sont pas remises en question. Et cette nouvelle langue, en fait, elle n'est pas trop remise en question. Et c'est intéressant, je trouve, de la remettre en question et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette langue de bois, en fait. Parce que ces mots... je ne sais pas si je veux vous donner un exemple.
Oui, donne-nous un exemple. Ouais.
Bah, quand on parle, par exemple, d'égalité des chances, c'est un mot qu'on entend assez souvent par les politiques. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité des chances? Est-ce que... pour moi, c'est le contraire de l'égalité. Parce qu'en apparence, c'est un concept très généreux, social. Mais en fait, derrière ça, il se cache une vision de la société, clairement de droite, qui est le mérite, la responsabilité individuelle, l'individuation des gens. qui s'opposent en fait aux idées de responsabilité collective, de des idées de gauche. Et quand on parle de code depuis tout à l'heure, quand vous parlez de code même urbain, qu'on va parler dans la deuxième partie de l'émission, et ben ces mots-là, c'est un peu des codes qui permettent de d'une certaine façon de rien dire, mais en fait quand on y regarde de plus près, de dire des choses, mais il faut un peu aller creuser.
Oui, mais est-ce que finalement l'institution d'un langage, d'accord, commun, est-ce que il n'est pas de toute façon obligatoirement à un moment donné sujet à ce genre d'ambiguïté? C'est-à-dire que est-ce que les gens utilisent ces mots comme ça? Est-ce qu'ils ont réellement conscience, ou est-ce que c'est un mécanisme, c'est une habitude nécessaire à la communication? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on réemprunte une parole qu'on a entendue, mais sans forcément se rendre compte de ce que ça veut dire. Mais est-ce que c'est pas nécessaire à la communication de toute façon pour trouver quand même des mots communs, des champs communs sur lesquels on peut se comprendre? Qu'est-ce que vous en pensez peut-être?
Mais je vous dirais que oui, on peut voir ça comme étant une sorte de norme et que obligatoire. Mais forcément, ça gomme toutes les nuances. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on récupère les nuances une fois qu'on essaie de se dégager de ces normes. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, on nous donne un vocabulaire normé, qui est celui, par exemple, du Parlement européen, ou celui des codes pour y accéder, ou, enfin, il y en a tellement. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne laisse pas émerger les nuances qui pourraient, ou les modes de transgression qui pourraient amener des nuances dans ces codes. La plupart du temps, on efface, on gomme. Bon, l'égalité des chances, c'est un mot complètement véhicule, vide en plus. Donc on y met un peu ce qu'on veut et au moment où on veut. C'est bon, il y en a plein. Hein, et la politique est très très riche de ce genre d'oxymores, de paradoxes. Bon. Ce qui rend aussi l'Europe très lointaine pour des personnes qui ont une réalité beaucoup plus nuancée que ces mots véhicules et que ces mots qui font appel à des bibliothèques de connaissances qu'on n'a pas nécessairement... que tout le monde n'a pas nécessairement. Bon, maintenant, si vous allez demander un exercice de nuance à propos de l'Europe à un Grec actuellement, je pense que vous allez en avoir énormément de la nuance. Pas toujours très positive, mais enfin, cette nuance, elle existe. Donc voilà, en ce sens, je ne pense pas que les normes soient tellement démocratiques. Mais je ne pense pas non plus qu'elles soient nécessaires. Alors, elles pourrait être nécessaire à condition qu'on s'en passe, mais c'est pas du tout ce que l'on nous donne pour l'instant comme sens.
D'accord.
Moi, je dirais que en fait, l'Europe étant un peu l'émanation d'un marché, un marché commun de l'acier, de la sidérurgie, forcément son drapeau est bleu. Il n'y a pas eu encore de détournement du logo européen en rouge. Moi, je ne désespère pas, puisque si on fait un parallèle, par exemple, avec les caravanes dans le désert, ces caravanes ont été d'abord des chemins tracés pour échanger et avoir un réseau, un marché. Ensuite, se sont installés sur ces parcours on est venu marier des filles et des garçons, on a développé une culture, un langage. Donc, il n'y a pas encore de langage rouge, il n'y a pas encore de nuance de couleur dans le drapeau européen. Il y a eu une tentative avec un ministre belge qui était à un moment président de l'Europe, je me trompe peut-être, mais enfin, avec Rem Koolhaas, oui. Pour créer un drapeau à base de tous les drapeaux européens. Au final, je pense qu'il n'a pas réussi à percer ce drapeau parce qu'en fait, malgré lui, il dégageait l'image d'un code-barre. Donc on revient à la norme. Ouais. Mais je pense qu'à partir du moment où ces différents peuples vivent ensemble, ils vont développer leur culture et leur couleur à travers une mémoire commune. C'est une histoire qui va prendre beaucoup de temps.
D'accord. Je vous propose d'écouter un deuxième travail réalisé par Catherine. On va l'écouter, on réagit après. Ça concerne encore une fois la question de la communication et du choix des mots pour parler des institutions.
Moi, ça ne me dit pas trop de choses, le Parlement européen. C'est quelque chose qui ne fonctionne plus dans les pays européens, mais pas pour les pays du Sud. pour moi, c'est pas tout à fait clair.
Le Parlement et la Commission, c'est, pour moi, ils font la même chose.
Moi, personnellement, je ne connais pas trop. Mais le Parlement européen, ça ne dit pas grand-chose. Même s'il y a des relations, normalement.
Et c'est pas trop clair.
C'est pas trop clair. C'est pas trop clair, trop évident. Du Parlement européen.
À mon avis, le Parlement européen, il joue un rôle, mais d'une façon très indirecte. Le législatif, c'est représenté par le Parlement européen et l'exécutif, c'est représenté par la Commission européenne.
La différence entre le Parlement a décidé et la Commission européenne a décidé, ça ne me regarde pas du tout.
Si le Parlement européen, c'est lui qui valide les actions de la Commission européenne, alors c'est un peu relié, oui. Mais moi, je devine.
Le Parlement européen, il peut par exemple approuver le budget, proposer des initiatives avec les pays, mais il n'est pas en contact direct. Celui qui exécute les lois du Parlement, c'est la Commission européenne.
En gros, en fait, la Commission, elle intervient à la fin, et c'est pour ça qu'on se souvient beaucoup de la Commission, parce que c'est elle qui va appliquer les programmes euro-méditerranéens sur le terrain. Elle va dire si on a le droit ou pas, selon les conditions, d'avoir ces projets financés. Et elle intervient aussi au tout début, parce que c'est elle qui va proposer aussi de faire quelque chose avec les pays du Sud. Mais le Parlement européen, il intervient au milieu, et c'est un moment très important, puisque c'est lui qui va en fait rejeter, adopter ou amender toutes les propositions de la Commission européenne. Voilà, c'est ça en fait, cette définition piège.
Alors Catherine, comment as-tu procédé pour aller à la pêche à tous ces sons? Comment ça s'est passé?
Mais en fait, je suis déjà égyptienne.
Oui.
Et je suis allée à Alexandrie pour prendre du son sur ce sujet. Parce que dès les débuts du projet, moi-même, j'avais des difficultés pour définir le mot « Parlement européen ». Et du coup, j'ai dirigé mon idée de faire une présentation sur la perception du mot « Parlement » par rapport aux pays du sud de la Méditerranée.
D'accord. Les gens que tu as interviewés sont des gens qui habitent pas forcément dans l'Union européenne.
Non, c'est des Alexandrins.
D'accord.
Qui sont à Alexandrie.
D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu en as retenu là? On sent qu'ils n'ont pas tous la même définition, que c'est une notion d'un point de vue extérieur à l'Europe qui leur semble difficile à cerner.
C'est ça, que des fois on croit que le mot Parlement, c'est un mot clair pour tout le monde, on peut le définir, mais en fait, on ne pense pas que ça dépend les gens, les codes culturels, les données culturelles, l'environnement qu'on vit, l'éducation, qui nous permettent de définir les choses et qui peut être différemment l'un à l'autre. Et en plus, je pense que pour les gens qui... La démocratie, déjà, c'est pas trop clair. C'est difficile de définir le mot démocratie pour ces pays. C'est un peu ils ont des difficultés pour définir le mot ou le rôle d'un parlement.
Mais du coup, alors, est-ce que vous pensez que, et là je m'adresse à tous, est-ce que vous pensez qu'on peut, sur des grandes notions comme ça, qui concernent du coup un ensemble, est-ce que vous pensez qu'on peut, ou est-ce qu'il faut adapter ce langage en fonction de chacun, de chaque culture? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Ou est-ce que c'est déjà, est-ce que ça se fait déjà? Parce que par exemple, si on prend l'exemple de là où ça a échoué, si on prend l'exemple de la Constitution européenne qui a été votée, qui est un exemple d'une règle qui est commune et qui du coup n'a pas forcément été compris de la même façon dans chaque pays et qui du coup a donné à tort ou à raison d'ailleurs le résultat qu'on a connu, est-ce que vous pensez que c'est possible d'adapter un discours à chaque culture comme ça? Est-ce qu'il faut le faire et est-ce que c'est possible?
C'est une bonne question.
Ouais.
Oui, c'est une bonne question, mais je ne sais pas s'il faut le faire ou si c'est possible. En fait, je pense que c'est possible dans la mesure où on se donne le temps pour le faire. À partir de ce moment-là, ça demande évidemment énormément d'attention, énormément d'application, énormément de contraintes. Mais, enfin, je rejoins complètement votre idée. Un mot interprété en français, en anglais, c'est des gens entre deux pays qui ont une relation ancestrale. C'est pas la même chose. Donc, voilà, il s'agit pas de lisser les différences encore une fois, parce que de toute façon, ça sert à rien. Les nuances et les différences réapparaîtront. Donc, après, c'est le temps qu'on se donne. Si la Constitution, puisque vous parliez de la Constitution, si elle devait être prête à telle date, telle heure, évidemment, ça ne pouvait amener qu'un non-lieu, une sorte de chose qui, voilà, qui parfois n'a pas lieu d'être. Aller parler à un Irlandais de la Constitution européenne, je suis sûr qu'ils sont revenus sur leur vote. Mais bon, c'est un peu normal, c'est un peu inhérent à l'Europe. C'est, comme le disait tout à l'heure Eric, l'Europe, elle vient du CECA. Hein, donc, c'est d'abord industriel au départ. Et ça, l'industrie n'a pas nécessairement une fonction démocratique. Elle a parfois une fonction paternaliste, comme en Belgique ou comme dans certaines parties du nord de la France. Mais voilà, on laisse pas émerger une parole européenne ou une parole européenne septentrionale, parce qu'il y a encore différentes, même en géographie, même en anthropologie, on parle de différentes Europes. Donc voilà, je pense que c'est prendre le temps et jouer avec ces nuances, ça serait intéressant. Un peu comme le premier ouvrage qu'on a entendu, qui est un ouvrage de Radio Potentiel, c'est ça ? Qui fait appel à la pataphysique, si je vois bien comment ça a été fait. Oui. Et qui est donc forcément, même si c'est un mélange un peu cacophonique, mais qui est tout dans la nuance, qui est à écouter avec, comme on écoute une symphonie, avec beaucoup de douceur et beaucoup de nuances, et beaucoup d'attention.
Je rebondis là-dessus par rapport à la musique, pas très loin de la musique, la danse. En fait, à Bruxelles, les conditions du foncier ont permis, avant l'arrivée de l'Europe, à ce que pas mal de scénographes, chorégraphes aient à leur disponibilité des grands espaces. Il y a une scène de la danse qui a émergé. Il y a une école ou plusieurs écoles internationales qui sont nées là-bas. Et en même temps que l'arrivée de l'Europe, il y a eu un essor de la danse. Je pense que ça correspond à un langage universel, enfin, et à certes, un désir de contamination. Donc là, il y a un nouveau langage, il y a de nouveaux codes entre l'Islande, l'Espagne, l'Europe de l'Est, à travers la danse, qui, à mon avis, peut être le point de départ vers un langage commun.
D'accord. Alors là, on a vu la question du langage sur une grosse échelle, hein, qui c'est toute l'Europe, mais on va, dans cette seconde partie que nous allons aborder, nous poser la question sur le langage de proximité et principalement la question de l'architecture, de l'installation d'une institution dans un quartier. Comment ça se passe quand une institution comme le Parlement européen s'installe déjà dans un pays, puis après dans une ville et puis dans un quartier? Quelles questions ça peut poser? Quelles sont les réadaptations qui va falloir opérer? Parce que s'installer dans un quartier, faire sa place, c'est-à-dire déjà voilà, faire sa place, connaître ses nouveaux voisins. Et tout ça, ben, évidemment, hein, ça pose des problématiques auxquelles doit se confronter une institution lorsqu'elle se crée quelque part. Et bien sûr, le Parlement européen n'en est pas épargné. Alors on va écouter un premier travail préparé par Claire.
Oui.
Claire, alors tu es partie aux alentours du Parlement européen pour rencontrer les habitants du quartier.
Oui, en fait, moi je suis très peu restée dans les locaux du Parlement européen et je suis beaucoup allée me balader dans les rues autour avec une grande question aux habitants. En fait, je leur ai dit que le Parlement déménageait de Bruxelles et c'était un prétexte à avoir leur réaction par rapport à cette institution. Voilà.
D'accord, donc on va écouter un premier travail. Après. D'accord.
Bonjour monsieur, je voulais savoir si vous vouliez réagir à l'information qui est tombée ce matin. Bah que le Parlement européen va sûrement déménager de Bruxelles. Il tournerait quoi.
Mais c'est on n'est pas le 1er avril. Que vous vous rendez compte du coup de ce que ça serait. Rien que pour les transports et les transferts en avion, en train.
Ils n'ont vraiment rien.
C'est de l'IRL, irréalisme.
C'est n'importe quoi.
Là, c'est n'importe quoi.
C'est ridicule, mais c'est à l'échelle du ridicule de ces fonctionnaires européens qui sont grotesques, qui gaspillent l'argent public, le jettent par les fenêtres. Comme ils n'ont absolument rien à faire et n'ont aucune responsabilité, ils inventent des tournantes de parlement maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont inventer après ? Ces gens sont absolument ridicules et scandaleux. Bah non, je ne suis pas eurocrate, encore bien. Quelle horreur ! Quelle horreur ! Oui, européen, mais oui. Pas pour l'Union européenne. Tous ces gens peuvent disparaître demain, je serais très content.
Et ils sont tout le temps en congé. Donc nous, dans ce quartier, nous vivons au rythme des fonctionnaires européens. Pâques, alors les grandes vacances, les ponts du mois de mai avec Saint-Schumann et compagnie. Au mois de novembre, c'est une semaine également. Et au mois de décembre, deux semaines, plus le carnaval. Vous trouvez ça normal, vous ? Tous les Belges sont partis, tous les bureaux belges ne savent pas payer ça, les loyers qu'on demande ici. Impossible, il n'y a que l'Europe. Mais l'Europe, c'est qui ? C'est nous autres, ce sont tous les petits contribuables. Ils ne payent même pas les taxes qu'on paye ici à Bruxelles. Même pas. Pour la Belgique, il n'y a rien du tout.
Mais c'est pas vrai.
Ah, mais c'est pas
mais
vrai.
Ça, c'est bien les étrangers qui arrivent à Bruxelles, qui ne savent pas du tout comment Bruxelles était avant. En fait, Bruxelles était complètement détruite par l'Union européenne. Des quartiers entiers ont été rasés, des beaux immeubles, des beaux hôtels de maître ont été détruits. Ici, vous croyez que c'était un terrain vague avant ou quoi ? Mais c'était un magnifique quartier de résidence secondaire ou de première résidence, etc. C'était très très beau. Ils ont tout mis par terre. Alors, on ne justifie pas 8000 fonctionnaires qui ne fichent rien et qui n'ont aucune responsabilité et qui sont engraissés à nos frais sous prétexte que ça fait vivre un quartier.
Et là, on est à la librairie de France, juste à côté du Parlement. Et je me disais, peut-être que les parlementaires, ils ont envie de bouquiner un peu des fois et ils ne viennent pas chez vous ?
Non. Premièrement, ils n'ont soi-disant pas le temps de lire. Et quand ils peuvent lire, ils prennent sur Internet. Ce sont des étrangers. Nous, on fait la presse anglaise, etc. Ça, ils ont sur Internet. Ils n'en ont rien à faire de ce petit journal. On n'a pas une librairie où on peut proposer toutes les langues. C'est impossible. Ils retournent dans leur pays régulièrement, donc ils achètent chez eux. Ce qui peut marcher ici, dans le coin, ce sont les snacks. Les snacks, ça marche.
Alors, Claire, les snacks, ça marche ?
Oui, alors c'est vrai que près du Parlement, il y a énormément de snacks et que ça marche. Alors, c'est un extrait qui est un peu virulent.
Ah oui, alors...
C'était pour aborder le sujet. C'est vrai que c'est des réactions que j'ai souvent retrouvées quand ce sont des personnes qui ont des commerces qui fonctionnent mal, ce qui, en l'occurrence, est le cas de ces personnes qui habitent à 50 mètres du Parlement. Mais ce n'est pas le cas de tous. Par contre, ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est qu'ils sont donc à 50 mètres du Parlement et on se rend compte que le fossé entre l'institution et les commerces de proximité ou les voisins, en fait, il est énorme. Puisque...
Il y a une frontière entre ces deux espaces, quoi.
Voilà, en termes de représentation, on se rend compte que c'est énorme. Et en termes de territoire et de visuel aussi, c'est-à-dire que les beaux immeubles de maître, c'est-à-dire des représentations et des valeurs associées à une certaine catégorie de la population, sont tombés au profit d'une institution dans laquelle certaines parties de la population ne se reconnaît absolument pas.
D'accord, on va écouter un deuxième extrait, qui à mon avis va concerner plus la question de l'architecture.
Alors en fait, c'est un extrait d'une balade architecturale faite avec Marco Schmidt, qui est architecte et qui participe, qui est membre actif de l'association du quartier Léopold, donc l'association qui est dans le quartier du Parlement européen. Et donc Marco, on se balade avec nous et on décrypte un petit peu le paysage et en même temps on aborde la question de l'entrisme et de comment à un moment on peut apporter quelque chose de contraire à ce qui se passe sur ce quartier.
D'accord, on écoute et on revient tout de suite après.
On est tout près du quartier Léopold. À la suite de Wirtz, il y a toute une série d'artistes qui sont venus s'installer ici. Alors, il y avait un réseau d'ateliers d'artistes assez important. Mais ça foisonnait, bien sûr. Mais comme traditionnellement, les artistes étaient installés ici, quand l'un mourait, quand l'autre quittait, etc., il parlait dans son environnement immédiat, j'ai un atelier, qui est-ce qui pourrait un ? Et ils se transmettaient les uns les autres. Il y a des dynasties complètes d'artistes qui se sont succédés dans une seule maison, par exemple. Alors évidemment, ça a commencé au 19e siècle et ça s'est arrêté, alors, grosso modo, avec la construction du Parlement européen. Et on a démoli ces ateliers entre 89 et le début des années 2000. qui était intéressant, c'est que ces artistes habitaient dans le quartier, faisaient partie de cette mixité sociale et d'activité qui était caractéristique de ces quartiers du 19e siècle et qui malheureusement s'est perdu, en tout cas cet aspect-là des choses. Donc au niveau des activités de l'association du quartier Léopold, on a l'intention de réintroduire des ateliers d'artistes. Dans un premier temps, surtout pour des artistes en résidence, de telle sorte qu'il y ait un renouvellement assez régulier et que d'une certaine manière, on puisse réattirer des artistes qui, eux, pourraient résider à plus longue échéance.
Mais du coup, si vous réintroduisez des logements d'artistes, est-ce que tu penses vraiment que la mixité sociale sera recréée? Parce que
non.
Ça ne suffit pas vraiment.
Ah, mais non, ça ne suffit pas, effectivement. Alors, c'est le côté peut-être utilitariste de ce projet. Évidemment, lorsque on présente un projet tel que celui des ateliers d'artistes, c'est pour nous une manière de parler de tout le reste. La culture, les artistes, c'est toujours un sujet quand même nettement plus consensuel que d'autres choses.
Que l'immobilier, alors, que...
Voilà, donc d'accord. Plutôt que de faire toujours des grandes batailles immobilières, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule et on va essayer de, par ce moyen-là, qui est quand même perçu de manière plus positive par tous nos interlocuteurs, de parler de la même chose, c'est-à-dire... cette densité sociale, économique, culturelle. La densité, c'est pas seulement des nombres de mètres carrés de bureaux, c'est aussi toute une histoire.
Bonsoir à tous, Bruxelles est donc aujourd'hui la capitale de la planète.
Voilà, on était parti à la rencontre de Marco. Qui est Marco? Précise-nous un peu, Claire.
Donc Marco, il est architecte. Donc c'est son métier et par ailleurs il est membre actif d'une association qui s'appelle les AQL, Association du quartier Léopold, qui ont en fait été très présents au moment de la construction du Parlement européen, puisque comme le Parlement européen a été construit par une promotion privée, finalement cette association est devenue le seul interlocuteur pour pouvoir négocier et faire en sorte que le chantier, la construction du Parlement européen puisse être un peu plus égalitaire sur certains aspects, type les relogements, des choses comme ça, quoi.
D'accord. Alors, on a entendu dans ces deux extraits deux choses à la fois complémentaires mais différentes. Tout d'abord, quand une institution s'installe dans un quartier, on n'a pas l'impression qu'elle demande l'avis aux voisins. Et qu'elle s'installe sans demander quoi que ce soit, qu'elle rase des quartiers. Est-ce que quand même, il y a quand même à mon avis avant une prise en compte de ça, mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que il y a un temps d'adaptation? Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont faites, organisées entre les gens du quartier? Ou est-ce qu'il y a véritablement un fossé?
Ben, en l'occurrence, là non, puisque c'était une promotion privée. Donc peut-être que si ça avait été un projet public fait par des élus, il y aurait pu avoir ces temps de concertation. Et là, de toute façon, il n'en a même pas été question. Enfin, si vous voulez réagir...
Non, effectivement, il n'y a pas eu de concertation. Ça a été fait là parce qu'au départ, il y avait le rond-point Schuman et ce bâtiment amianté et désamianté par la suite. Bon, il y avait aussi des squats dans le coin. Il y avait une vie de quartier assez importante, assez énorme. Il y avait le lycée Jacquemin où forcément on retrouvait des adolescents. Il y a le musée d'histoire naturelle qui se situe un peu au-dessus, qui est un très très vieux musée. Et puis après, on retombe sur une partie de Bruxelles qui est plus proche de Matongé, c'est-à-dire... la partie où vivent la plupart du temps les Aérois, vais-je dire, mais les Congolais, comme on dirait maintenant. Donc voilà, c'est un quartier qui est excessivement populaire. Visiblement, on a racheté les maisons, ou en tout cas les propriétaires des maisons se sont organisés pour pouvoir les vendre. Bon, voilà, paupériser le quartier avant d'en faire un quartier européen qui est devenu un quartier très cher. Le quartier du Luxembourg était un quartier où il y avait de superbes maisons bourgeoises du 19e, puisque le Luxembourg, les grosses familles luxembourgeoises venaient habiter ce quartier. C'est de là vient son nom. Et puis par la suite, en tout cas dans les années 80-90, il y avait une vie artistique assez importante, une vie culturelle indéniable, même dans tous les coins de ce quartier. Il y avait un café qui s'appelle le Pullman, qui était ouvert toute la nuit, où les taximen passaient, où les comédiens passaient après une représentation parce qu'ils étaient sûrs d'avoir à manger. Enfin, voilà, c'était un creuset. C'était sans parler du quartier lui-même, qui a une histoire. Et enfin, dans le sous-sol de la place du Luxembourg, on retrouve des bobines de cinéma qui appartiennent au musée du cinéma. Enfin voilà, c'est un espace tout à coup qu'on a aseptisé, rendu plat, et sur lequel on a fait monter des bâtiments qui, architecturalement parlant, à mon sens en tout cas, interviennent bien dans Bruxelles, parce que ça reste complètement décalé. D'accord. C'est un des cas de Bruxelles. C'est pour ça que j'adorais le côté pataphysique, le côté surréaliste est en plein. Enfin, si vous connaissez Skuyten et Peters qui ont fait les bandes dessinées sur Bruxelles, voilà, on a l'impression à un moment de passer une plateforme et de se retrouver dans une sorte de Bruxelles comme ça, Manhattan à la bruxelloise. Je ne sais pas si vous voyez le Monsieur Manhattan de Benoît Poelvoorde, mais c'est un peu dans cette idée-là. Voilà. Tout ça, ça fait écho dans le contexte.
Eric,
je reviendrai un petit peu sur la parole de Xavier en disant qu'il a utilisé le mot tout à coup. Moi, j'aurais une autre perception des choses. Je parlerais plutôt d'un processus assez long, en fait, dans lequel intervient de nouveau, je replace, la spéculation, où donc les immeubles sont laissés à l'abandon, les fenêtres sont cassées de manière à humidifier complètement le bâtiment, de manière à avoir des arguments pour le détruire, même s'il a une valeur patrimoniale.
Ouais.
Donc il y a une assez longue période qui est assez caractéristique à Bruxelles, qu'on peut retrouver également à Marseille, qui précède parfois, on est sur du 20-25 ans de planification. Et donc qui crée des chancres, qui crée des friches, des quartiers entiers laissés à l'abandon.
Dans le but après de les réutiliser pour des pôles.
Voilà, d'attendre qu'un propriétaire vende ou de faire pression pour qu'un locataire s'en aille par tous les moyens possibles. Là, je pense qu'il y a un réel guide. Une bande dessinée à créer sur les usages de planification urbaine pour expliquer comment ça se passe, mais c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Mais donc ça se passe comme ça, d'une longue déchéance de quartier, et puis tout d'un coup il y a une explosion. Enfin, c'est rasé, c'est très rapide. Là, ça prend 6 mois, 1 an. Il y a vraiment un sentiment de violence.
Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a vraiment aucune prise en compte de la population du quartier, de l'historique même du quartier? Est-ce que vraiment il y a une installation pure et dure et on fait
Je dirais qu'il y a une prise en compte, mais elle est un peu retors. En fait, il y a plusieurs quartiers à Bruxelles, et puis je pense que c'est également à Marseille où ça se passe de cette manière, où en fait on utilise les artistes, en fait, parce qu'ils sont à la charnière entre différentes couches sociales. Ils sont les fous du roi. Ce sont des gens qui donc sont capables de parler au roi et en même temps capables de parler à la population. Donc ils sont un maillon essentiel dans le lancement sage, ils sont une petite graine intéressante à utiliser pour amener un nouveau public dans un quartier.
C'est intéressant que vous fassiez le parallèle, par exemple, avec ne serait-ce qu'avec.
C'est ce que Marco disait quand il dit on va réintroduire des artistes dans le quartier. C'est cette idée de la semence et de l'espèce en voie de disparition qui permettra peut-être d'insuffler un peu de désordre.
Mais je suis pas convaincu que ça ramène des couches populaires et une mixité. Ça risque plutôt de gentrifier. Enfin, il y a un phénomène de gentrification dans lequel l'artiste joue un rôle malgré lui.
D'accord. Mais alors, du coup, vous, en tant qu'artiste, ou alors, vous posiez ces réflexions, ces recherches sur ces choses-là, comment une population peut échanger ou alors se réapproprier ces codes-là? À un moment donné, ou ces espaces-là,
faire pression, faire lobbying, comme un centre-ville pour tous. Donc il faut un centre-ville pour tous, c'est ici à Marseille. Donc c'est pour moi les seules solutions. Il s'agit de rapports de force. Idem pour coloriser le drapeau européen en rouge, il faut un syndicat européen. Or, je vois pas encore de réelle présence et de réelle communication de force. Ouvrières ou de main d'œuvre qui se réunissent et qui peuvent se hisser aussi haut que les entreprises et que les marchés pour porter leurs couleurs.
Oui, dans un espace comme celui du quartier du Luxembourg et du Parlement européen, c'est très difficile de pouvoir se réapproprier cet espace. J'imagine que maintenant, c'est de l'est encore plus, vu les modes de surveillance et la parano qui tourne autour des fonctionnaires européens et de tous ces symboles du pouvoir, parce que on parle de symboles du pouvoir aussi. Alors évidemment, on peut organiser des pique-niques, utiliser des choses très simples, puisque un quartier, c'est plus dynamique que le Parlement européen, qui, lui, est une vieille tortue qui avance très, très lentement. Par le dynamisme, on peut faire des choses, mais ce sont des choses ponctuelles. On retombe, comme le dit Eric, on retombe la plupart du temps dans un rapport de force. Et la population, tout comme n'importe quel habitant dans la ville, si elle a un rapport de force avec la ville, forcément, elle est perdante.
Ah, je voudrais juste réagir à ça, parce que l'idée que l'institution est toujours plus forte et que la population est toujours victime, je trouve que c'est un peu dommage et ça réduit un peu la possibilité citoyenne de faire quelque chose. Et je veux juste donner un exemple qui s'est passé justement au Parlement européen sur la circulation des codes et la circulation des appropriations. L'association Les AQL, par exemple, elle a négocié des choses au niveau local, c'est-à-dire qu'elle a imposé ses propres normes de sécurité au chantier du Parlement européen, par exemple. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans les lois européennes qui sont passées juste après, ces mesures ont été reprises par l'institution. Donc, effectivement, ça peut paraître anecdotique, mais il me semble quand même qu'à un moment donné, il peut aussi y avoir une circulation dans l'autre sens. Et c'est aussi un peu plus sympa de penser que c'est possible.
Oui, bien sûr, mais à partir du moment où ça peut servir l'Europe, je pense que l'Europe peut servir, mais...
Ça a servi aussi les artistes, puisque la plupart des artistes qui ont été relogés, oui, l'ont été au prix, non pas du marché actuel au moment du relogement, mais au prix qu'auraient dû prendre les terrains après la construction du Parlement. Donc c'est quand même... Ils ont eu un dédommagement qui est à la hauteur... Encore une fois, les habitants ont réussi quand même à imposer leur propre... mode de perception des choses, quoi.
Effectivement, si ça peut se passer comme ça, mais je suis sûr que c'est assez ponctuel et peut-être anecdotique. Mais bon, en tout cas, pour avoir vécu à Bruxelles, et par exemple, rue Horst, en face du Beurskobourg, qu'il y avait tout un ensemble architectural qui datait du 19e siècle, qui a été vidé de son contenu, ce qui se fait beaucoup à Bruxelles, on vide les bâtiments de leur contenu, on garde la façade et on reconstruit les bâtiments dedans. Qui est une sorte de façadisme, une sorte de fixer la ville dans un passé comme un décor de théâtre et pour continuer à faire en sorte que les gens évoluent dans quelque chose qui n'a pas changé. Ça a été d'abord repris aussi par des artistes qui ont investi le lieu, où on a réouvert des hôtels, un hôtel qui était là, et il y a une réutilisation assez, assez intéressante et ponctuelle, mais encore une fois, c'est de l'ordre de la performance. Bon, pour moi, ça m'intéresse énormément. C'est ce qui me motive, c'est ce qui fait que je travaille. Mais je suis pas sûr qu'un message politique puisse réellement aboutir. Encore une fois, parce que c'est une structure qui est vraiment très très vaste.
D'accord. Bon, la question est longue. La question est très intéressante, mais malheureusement, le temps est court. L'émission s'achève. Très ravi de vous avoir pendant une heure côtoyé et discuté avec vous. Donc je rappelle Eric Pringles.
Oui.
Si vous avez une actualité à dire, peut-être.
Une actualité à dire.
Pas obligatoirement.
Oui, un rêve que je partage avec différents architectes et artistes ici on est à Aix, mais ici à Marseille, c'est celui de réaliser. Un camping, puisqu'il y a un manque cruel de camping dans la région marseillaise en vue de la capitale culturelle. Et ce serait d'en faire un laboratoire vivant où on puisse à la fois accueillir de manière très populaire des gens et en même temps les emmener ou dialoguer avec eux et en faire un événement et puis un laboratoire d'habitat, de pratique. Peut-être un dialogue avec les camps similaires de l'autre côté de la Méditerranée. Et voilà, donc j'appelle tout le monde à rejoindre ce projet.
Le message est passé.
Projet serait un peu rattaché d'une manière ou d'une autre à Marseille2013.org, dont je suis le coordinateur, et qui rejoint un peu
une partie de mes sensibilités, de mes thématiques que j'ai commencé à expérimenter à Bruxelles.
D'accord. Eh ben, le message est passé. Xavier Letton, un dernier mot peut-être ?
Oui, ben, si vous voulez suivre donc les parcours et la notion de parcours et ce que ça implique, ce que ça peut créer en installation, in situ ou dans la rue, vous pourrez le voir sur le site des villes à l'envers, c'est Aller Vers, c'est allant allantvers.org. Et à partir de ce moment-là, vous verrez un peu ce qui s'est passé dans Bruxelles, à Madrid, à Béjaïa et à Marseille.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous deux.
Merci.
Merci également à Claire, Lucie, Catherine, Aurélien. Merci à Marianne, Floriane. Vous pourrez retrouver toute la journée les différentes créations grenouillesques et radio laborantines autour de l'Europe. Pardon. Alors nous rappelons évidemment que ce projet fut possible grâce au soutien de la Direction générale de la communication du Parlement européen. Nous remercions Dominique Batou, Thierry Baldan du Bureau de la vie étudiante. Nous remercions également le Grand Seb à la technique, ainsi que Mathieu et Hélène pour leur chaleureux accueil bruxellois. Merci à tous sur l'antenne des 3-8. Bonne continuation en ce dimanche 9 mai. Bonne journée à tous.
Chante le flamenco de Bilbao à Gibraltar. C'est de la folie, c'est du fuego.